Bonjour et bon dimanche, que Dieu vous bénisse, ça va? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous savez que il y a une grande partie de la chrétienté, enfin pas une grande partie, j'exagère, il y a une partie de la chrétienté qui pense que Jésus revient demain pour chercher son épouse. Alors nous sommes aujourd'hui le 20 décembre et je vous le dis, Jésus ne reviendra pas demain pour chercher son épouse. C'est enregistré, c'est dit, et on se trouvera le 22. Amen.
Amen.
Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Voilà, c'est tout. Et nous écoutons les prophètes, nous n'écoutons pas les eschatologues. Nous avons fait des expériences avec les eschatologues et nous avons vu ce que ça donne. Ça devient de la folie furieuse. Bien, 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 bien. Tout le monde va bien, c'est vrai, c'est bon. Donc on va commencer par faire une lecture dans 1 Corinthiens 4. On aimerait bien que Jésus revienne demain, non? Même maintenant, là, tout de suite. Mais nous n'avons pas le droit de dire le jour où Jésus reviendra, puisque c'est interdit, la Bible dit, nul ne le sait. Voilà, c'est tout. Avec ça, tout est dit et on n'a rien à rajouter à la parole de Dieu. 1 Corinthiens 4, 14, 17. 1 Corinthiens 4, 14, 17. Alors c'est Paul qui écrit à certains Corinthiens qui ne sont pas gentils avec lui. Et il leur dit, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants, bien-aimés. En effet, même si vous avez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant, bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enfuis d'orgueil, etc., 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 etc. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse ces choses que je vais vous lire ce matin. La prédication de ce matin s'appelle « J'aime ma famille ». J'aime ma famille. Paul, il connaissait très bien la parole de Jésus qui dit « Ne vous faites pas appeler père ». Cependant, devant la folie de certaines personnes qui s'étaient converties grâce à son ministère, Paul leur dit « Je vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile ». Alors, engendrer, ça veut dire « Je suis à l'origine d'eux ». Ça veut dire « J'ai causé votre naissance en Jésus-Christ par l'Évangile », d'après le dictionnaire. Oui ou non? Donc, en quelque sorte, oui, il est leur père. Il est leur père. Mais nous n'avons pas d'autre père que notre Père céleste. Il leur fait juste comprendre une chose, c'est qu'ils font partie de la famille de qui? De Paul. C'est Paul qui les a fait, qui les a conduits à Jésus. Et puis, il appelle aussi Timothée « mon enfant ». Quand on est l'enfant de quelqu'un, quand quelqu'un est l'enfant de quelqu'un, ce quelqu'un est un père pour nous. Mes frères et sœurs, la famille, c'est une institution divine. Non seulement la famille dont vous portez le nom, mais aussi votre famille divine. Parce que vous êtes forcément enfant spirituel d'un père et d'une mère. Mais nous ne sommes pas appelés, il est vrai, à rester éternellement, indéfiniment, des enfants. Nous devenons des adultes. Cependant, même adultes, nous sommes encore les enfants de nos parents. Mélodie, c'est une adulte, mais c'est encore mon enfant. Hein, Mélodie? T'es ma fille. Tu peux pas, c'est impossible de dire que t'es ma fille. Tu peux pas le dire. Et tu peux pas changer de père. C'est impossible. C'est comme ça. C'est ordonné. Et on va voir ça ce matin. Devenir adulte, ça fait partie de l'évolution normale d'un être humain. Donc, il est normal que l'être humain se dégage peu à peu des faiblesses et des limitations de l'enfance. On peut lire ça dans 1 Corinthiens 13, il le dit très très bien. 1 Corinthiens 13, 11, il dit, c'est Paul qui dit encore, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. » Hein? Si hier on disait à Titi, à table, mais arrête s'il te plaît, est-ce que tu imagines que Dominique parle tout le temps comme toi, ou Rachel parle tout le temps? Mais c'est un enfant. Hein? Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Vous voyez? C'est comme ça, c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. C'est normal qu'on se dégage petit à petit des limitations de l'enfant. Mais une fois que quelqu'un y est parvenu, il doit retrouver cette qualité qui est propre à l'enfant, c'est-à-dire la confiance. Je me rappelle toujours de Raphaël qui racontait l'histoire. Il disait, vous devez faire confiance à Dieu comme un enfant fait confiance à son père. Il dit, vous mettez un enfant devant un escalier qui descend à la cave, c'est tout noir, il voit rien du tout en bas. Mais il y a son père qui lui crie, saute. Ben, le gamin, il saute parce qu'il a entendu la voix de son père, il sait que son père va le rattraper. Vous mettez un adulte, il ne sautera pas. Hein. C'est vrai, c'était une bonne image, c'était une bonne image. Et ça m'est toujours resté, je la cite souvent cette histoire. Un enfant, il est petit, il est complètement sans défense, et puis tout ce qu'il fait, c'est, ça attire l'attention sur lui, ça attire toute notre tendresse, la tendresse de ses parents, de ses grands-parents, la bienveillance, et toutes ces choses, enfin, de tout l'entourage. Un enfant, les parents donne à manger à l'enfant, ils prennent l'enfant par la main, et puis arrive un jour où l'enfant devient un adolescent et on n'a plus besoin de le prendre par la main pour l'emmener à l'école. Hein, si tu emmenais Lucas à l'école par la main, je crois qu'il aurait la honte, non? Ben oui, c'est pas parce qu'il a honte de toi, mais c'est parce que ça ne se fait pas, puis c'est tout, c'est tout. Parce qu'il a, il commence à devenir, il n'est pas encore, mais il commence à devenir adulte. Mais il a encore besoin, un adolescent, de beaucoup de choses. Pour être nourri, par exemple. Comment il va faire, le gamin, s'il n'y a pas papa, maman qui ramène du pognon à la maison pour bouffer? Hein? Ben, voilà. Pour être conseillé aussi. Et pour être guidé aussi. L'adolescent a encore besoin de ses parents, affectivement et intellectuellement aussi. Les deux côtés, vous voyez toujours. Le cœur et l'intellect. Vous vous rappelez ces prédications que je vous ai faites dernièrement? Sinon, ben, il risque de s'égarer, parce que l'adolescent, il est presque adulte, il peut déjà se reproduire s'il veut. Mais les parents lui disent, ah, attention, oui, tu me casses les pieds, attention, blablabla. C'est vrai, elle est très jolie cette fille, mais... Voilà, vous voyez mes frères et sœurs, c'est un exemple que je dis. Si l'enfant n'écoute pas et s'il ne se laisse pas guider, il va être malheureux. Il ne croit pas à ça, hein, il ne croit pas à ça. Mais c'est comme ça. Quand on regarde les animaux, on est toujours frappé de voir que les animaux, les petits animaux, se développent très rapidement. Et ils deviennent très rapidement autonomes. Il y a des animaux, au bout de quelques mois même déjà, ils sont capables de se reproduire. Par contre, les enfants humains, ils se développent très lentement. Moi, je suis ravi que les enfants se développent lentement, comme ça on peut les garder longtemps. Les petits titis, on peut les garder longtemps encore. C'est super, les enfants. Mais cette lenteur, mes frères et sœurs, elle est due à l'immense complexité de leur nature. Il y a énormément de mécanismes qui doivent se mettre en place. Un enfant, c'est un être humain à part entière, mais il n'est pas complètement fini. Il y a des tas de choses qui doivent se mettre en place. Et dans l'adolescent encore aussi. Et l'adolescence, c'est un sale moment à passer. Je suis content d'être vieux. C'est horrible, l'adolescence. C'est le moment le pire. Bon, voilà. Je ne voudrais pas être un adolescent. Je suis content que Jésus ne nous parle pas de la réincarnation en nous disant qu'on va se réincarner, parce que ce qui me ferait peur, c'est de me réincarner en humain puis de redevenir de nouveau un adolescent. Je ne voudrais pas. C'est affreux. Il y a trop de contradictions, il y a trop de choses bizarres. Physiquement, d'abord, il y a des choses qui doivent se mettre en place, et puis surtout psychiquement. Le processus de ce développement n'est pas rapide. Parce que l'être humain, il faut qu'il puisse entrer en possession de toutes ses facultés. Et il faut du temps pour rentrer en possession. On les a, ces facultés, mais il faut rentrer en possession de ces facultés. Et jusqu'à ce qu'ils y parviennent, eh bien, les enfants, les adolescents ont besoin de l'aide et de la protection de leurs parents. Et ça fait des conflits parce que, voilà, les parents passent pour des vieux croutons et c'est normal, c'est comme ça tout le temps. Notre fille, elle n'a jamais pensé qu'on était des vieux croutons, en tout cas, elle ne l'a jamais dit. Mais, mais voilà, c'est bien, c'est vrai que honore ton père et ta mère, voilà, il faut honorer, même si, voilà, ils ne sont pas toujours au top. Et il faut quand même avoir du respect. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est que l'évolution d'un humain ne s'arrête pas au moment où leur père et leur mère ont fini de jouer leur rôle. Ça ne s'arrête pas là. Parce que l'humain a aussi, il est aussi, plutôt, une entité spirituelle qui doit progresser encore et encore. Alors, bien que devenus adultes, les humains ont besoin encore de leurs parents, et toujours, de leurs parents célestes. Ah bon ? Oui, Dieu est notre Père, est la personne qui nous a conduits à Jésus, en quelque sorte, est notre Mère. Paul dit qu'il est le Père, mais bon, pour faire un enfant, il faut un Père et une Mère. En fait, les catholiques, ils disent notre Mère, l'Église. Ils n'ont pas complètement tort, mais ce n'est pas entièrement vrai non plus. Hein. C'est la personne qui nous a emmenés au Seigneur qui est notre Mère. En tout cas, un adulte chrétien doit toujours conserver un cœur d'enfant, simple, spontané, ouvert, plein de confiance envers ses parents célestes, de respect. Sur le plan humain, moi je connais des gens qui ont un papa qui est un peu foudingue. Eh bien, est-ce qu'ils ne lui doivent pas de l'amour? Parce que sous prétexte qu'il est foudingue, est-ce qu'ils ne lui doivent pas du respect? Sous prétexte qu'il est foudingue? Non. Ils lui doivent de l'amour et du respect, même s'il est bizarre un peu des fois. Toujours. C'est comme ça. C'est un commandement. Tu dois honorer tes parents. Et c'est comme un enfant que nous serons accueillis au ciel. Rappelez-vous, Jésus dit que si on n'est pas comme un enfant, on ne peut pas être accueilli au ciel. Donc, il faut être un enfant, mais un enfant correct. Vous voyez, dans le domaine spirituel, il ne faut pas retomber en enfance. Au contraire, dans le domaine spirituel, nous devons aussi évoluer. Pour devenir un enfant spirituel, pour pouvoir ouvrir son cœur à ses parents célestes et se laisser guider par eux, il faut avoir beaucoup vécu et beaucoup appris. Il faut être un adulte pour être un enfant correct. Plus vous apprenez, plus vous avez de chances de comprendre les motivations de vos parents célestes. Souvenez-vous toujours de l'attachement que Michou et moi avons gardé pour Raphaël et Violette. Comment nous les honorions sans cesse selon le cinquième commandement qui dit « Honore ton père et ta mère et tu seras heureux et tu demeureras et tu vivra longtemps dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, t'a donné. » C'est le seul commandement dans les 10 commandements avec une promesse. Être adulte spirituellement ou être un enfant spirituellement, c'est donc pas une question d'âge, mais c'est une question d'état de conscience et d'attitude. Alors, ce qui nous intéresse, nous, là, c'est comment se comporter dans la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, nous devons nous manifester comme des enfants, c'est-à-dire conscients que nous sommes fils et filles du Père Céleste et de notre Mère Céleste, et de rester liés à eux, afin de recevoir de l'aide et des conseils et la bénédiction liée au cinquième commandement, afin que tu prolonges tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Or, nos parents divins ne peuvent nous nourrir, nous soutenir et nous protéger que si nous nous conduisons comme des enfants attentifs, obéissants, respectueux et humbles. Jésus dit, car quiconque se rend humble comme un petit enfant, celui-là sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alors quand Jésus dit cela, il ne nous dit pas d'être soumis, humble et obéissant à n'importe qui, mais seulement à nos parents terrestres et célestes. Il y a une très jolie chanson de Claude François qui dit « Oui, je t'ai adopté, et alors ?» C'est moi qui te nourris, c'est moi qui te conduis, c'est moi qui t'aime, c'est moi qui veille sur toi quand tu es malade. C'est la même chose si vous êtes adopté. Par exemple, dans la communauté, il y a des gens qui ne sont pas nés au travers de mon ministère, mais que j'ai adopté en quelque sorte. Eh bien, je suis la mère en quelque sorte de ces gens-là. Raphaël, Violette, Camélia, T.L. Osborne, Daisy Osborne, Vic Ramsey, Jane Ramsey, tous ces enfants de Dieu sont de ma famille spirituelle. Mais seuls Raphaël et Violette sont ma mère. Parce que c'est avec eux, c'est eux qui m'ont enfanté, c'est eux qui m'ont engendré, je voudrais dire, dans la foi. Quand Raphaël et Violette étaient venus, étaient encore dans ce monde, quand ils étaient encore ici, sur cette terre, j'allais les voir souvent avec la Michou, parce que Michou aussi, elle est née spirituellement avec Violette et Raphaël, et puis Rachel aussi, Guy aussi, on est une famille. On allait les voir à peu près deux fois par mois, c'était loin, mais on y allait, on aimait beaucoup. Et pourquoi est-ce que vous pensez que j'y allais? Parce que je les aimais tels qu'ils étaient, ce n'étaient pas des puits de science, je ne pouvais pas avoir des grandes conversations philosophiques avec eux, mais Ils m'inspiraient. Ils n'étaient pas parfaits, j'avais conscience de leurs limitations et des trucs qui ne jouaient pas. On a tous des trucs qui ne jouent pas, hein. Mais ils m'inspiraient, je les aimais. Et ils m'aimaient vraiment ça, tout le monde le sait. En tout cas, dans le milieu gitan, tout le monde sait que Raphaël et Violette aimaient Michel et Michel Janton. Ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est sûr. Et ils me conseillaient, et ils me mettaient en garde. Même des fois, ils m'ont mis en garde contre certaines personnes. C'était pour moi comme une vraie mère, ces deux-là. Mais vraiment. Et il m'est arrivé des fois de ne pas les écouter. Et ben, j'ai eu tort. Quelquefois, ils m'ont mis en garde contre certains frères. Pour ne pas le nommer, par exemple, Itiel. Ils m'ont mis en garde contre lui. Mais je ne les ai pas crus. Eh bien, vous avez tous constaté qu'en fait, ils avaient vu juste. J'aurais bien fait de les écouter, ça m'aurait évité bien des chagrins. Ils m'avaient aussi averti contre d'autres frères et sœurs beaucoup plus proches de moi. Et là encore, je ne les ai pas crus. J'ai dit, oh, c'est pas possible. Et vous voyez, le temps a prouvé que ce qu'ils avaient dit, ils avaient vu juste. Je leur avais dit, vous savez, j'étais tout fier en plus. Je leur ai dit, maintenant, j'ai confiance dans mes frères, je vais les laisser prêcher dans l'église, chacun à son tour et tout. Et Raphaël m'a dit, fais surtout pas ça. Ça va finir par une division à cause de l'orgueil. Puis il m'avait cité un texte dans 1 Timothée 3, 4, 7, qui dit, même déjà, c'était un peu avant déjà, parce qu'il dit, il faut, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il prendre soin de l'église de Dieu? Il ne doit pas non plus être un nouveau converti de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Je dis, mais attends, mais... Et je n'ai pas écouté. Je ne pouvais pas et je ne voulais pas croire ça à l'époque. Eh bien, vous connaissez la suite. Aujourd'hui, Raphaël, Violette et tous les autres, Daisy, T.L., Jane, Vic, tout ça, tous ces gens-là sont morts, ils sont de l'autre côté du voile. Mais Violette et Raphaël, je les connais tellement que je sais ce qu'ils me diraient aujourd'hui. C'est comme Paul, Pierre, Jean et tous les autres apôtres. Ils sont de l'autre côté du voile, mais ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont dit et qui a été écrit, ça nous inspire encore aujourd'hui. Vous voyez, mes frères et sœurs? Alors, jusqu'à quand devons-nous nous comporter comme des enfants? Eh bien, toute l'éternité, toute l'éternité, toute l'éternité. Parce que notre Père sera toujours notre Père céleste, et ceux qui nous ont fait connaître Jésus ou qui nous ont adoptés en Jésus seront toujours notre Mère céleste. Dieu nous a unis sur terre, ce n'est pas pour nous diviser au ciel.
Amen,
Amen, vous croyez ça?
Oui.
Alors oui, la vie spirituelle, elle comporte des périodes de transformation qui marquent le passage d'une étape à une autre. Et vous voyez, par exemple, Raphaël, Violette, Camélia, les Osborne, les Ramsey, ils sont tous partis presque tous en même temps, en me laissant vraiment orphelin sur cette terre. Et c'est là que le diable a profité de me taper. C'est terrible, hein? Taper un orphelin, c'est pas beau. Hein? Ça m'a fait passer à une étape plus importante de maturité aussi, et à un changement de vision. Une vision plus grande encore, que celle que j'avais reçue dans le bureau de T.L. Osborne à Tulsa, Oklahoma, en 1979. Et vous qui êtes de la communauté, vous connaissez cette vision qui est magnifique. C'est comme un bébé pour le moment, mais personne ne nous l'étouffera. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais je n'abandonne pas mes parents spirituels. Je pense toujours à eux. Je m'inspire de leurs témoignages et de ce qu'ils m'ont laissé par imposition des mains. Vous voyez la belle famille que nous sommes, mes frères et sœurs? C'est réjouissant, non? Bien sûr, il y a quelques enfants qui se sont rebellés, mais il y en a dans toutes les familles, il y en a dans toutes les familles. Et ils reviendront. Ils reviendront. Si ce n'est pas sur cette terre, eh bien, ça sera de l'autre côté du voile, parce que c'est dans la nature des choses. C'est dans la nature des choses. Regardez plus en arrière maintenant. Ma maman avait prophétisé, je crois même que c'était ici dans le salon, c'était tout au début quand on était là, que Dieu allait nous donner une parole. Vous vous rappelez de tout ça? Quelque temps après, j'ai trouvé dans une maison que nous avons achetée là, un carton avec toutes les brochures et les livres de William Branham. Et nous avons compris que c'était le résultat de la prophétie, l'accomplissement de la prophétie de ma mère. Nous ne savions pas quand elle a prophétisé que c'était au sujet de Branham, mais Dieu nous l'a montré parce que nous avions un cœur bien disposé envers la prophétie de celle qui m'avait mis au monde, parce que nous l'aimions. Si on n'aime pas, on ne peut pas croire une personne. Ou si on est orgueilleux aussi, on ne peut pas croire. Et nous avons compris le message du prophète William Branham. On a fait la part entre l'homme et le ministre divin. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi des adultes. Quand on n'est pas des adultes spirituels, on a tendance à diviniser William Branham. Mais quand on est des adultes spirituels, on voit ses côtés humains, puis on ne prend pas tout pour parole de Dieu. Il faut arrêter. On n'est pas des branhamistes. Jamais nous serons des branhamistes. Mais nous aimons ce prophète de Dieu. Et pas tout ce qu'il dit, parce qu'il y a des choses qu'il dit qui sont, excusez-moi, c'est pas vrai. Par exemple, quand il dit la femme a une côte de plus que l'homme, parce que Dieu a enlevé une côte à l'homme pour faire la femme, bon ben voilà, on peut pas croire ça, même si c'est le grand prophète William Branham qui le dit, c'est une ânerie. Ben, il a dit des âneries. Moi, en quelque sorte, ça me rassure qu'il ait dit des âneries, ça me montre que c'était un homme. Vous voyez, c'était un homme, il n'y a que Dieu qui soit parfait. Et puis, regardez cette belle famille que nous formons. Souvenez-vous comment le Seigneur m'a ouvert les yeux et le cœur au sujet du livre de Mormon le 7 juin 1999. Cette vieille sœur Sanderson, ben elle aussi, elle est partie de l'autre côté du voile. Et ce qu'elle m'a donné sous forme de semence, ça a grandi dans mon cœur et dans le vôtre maintenant, ça commence à grandir dans votre cœur. Je me vois toujours assis là-bas avec elle. Et puis on parlait du Seigneur Jésus-Christ et elle m'expliquait le plan du salut. J'ai dit, mais je crois exactement comme vous. Je crois exactement comme vous. Et puis elle me dit, mais est-ce que vous croyez ça? J'ai dit, oui, et ça, oui. Elle me dit, maintenant j'ai encore une question. Ne me dites pas que vous parlez en langue. J'ai dit, mais oui. Elle me dit, alors, mais vous êtes un mormon. Les pentecôtistes et tous les chrétiens pensent que les mormons, c'est une secte. Mais parce qu'on leur a dit que c'est une secte, mais ils n'ont jamais été mettre leur nez dans le livre de Mormon. C'est tout. Et dans les livres de Mormon, il y a aussi des choses que je n'accepte pas. Comme par exemple, dans la Bible aussi, il y a des choses que je n'accepte pas. Savez-vous que dans la Bible, il y a des choses que je n'accepte pas? Par exemple, il y a des contradictions aussi dans la Bible. Vous lisez un évangile, vous voyez qu'il y a deux possédés à Gadara. Puis vous lisez un autre évangile, vous voyez qu'il n'y en a qu'un. Ben, voilà, quoi. C'est encore des hommes qui ont écrit sous l'inspiration de Dieu. Mais il y a des petites boules, des petites boulettes comme ça qui se mettent à gauche, à droite. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Un adulte spirituel qui a un cœur d'enfant, il fait confiance à Dieu. Amen. Amen. Il ne s'enquiquine pas avec ses boulettes. Je n'ai jamais vu quelque chose sur cette terre qui soit parfait, sinon Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus n'a jamais dit qu'il y aurait des bouquins. Jamais. N'empêche que ces bouquins, il y a des très bonnes choses dedans. Et quand j'ai eu le témoignage que ces choses étaient vraies, eh bien, Jésus a permis que nous trouvions cette prophétie qui a été donnée vers 1890. Je ne sais plus exactement la date, je l'ai notée quelque part, mais j'ai cherché hier, je n'ai pas retrouvé. Et c'est frère Branham lui-même qui en parle dans une réunion qui a eu lieu à Los Angeles le 9 mai 1951. Le prophète William Branham parle de ça. Alors je l'ai remis en bon français parce que ça, vous connaissez Branham, comment il parle, c'est un peu fouillis. Mais donc je l'ai remis en français. Et voilà ce qu'il dit, c'est frère Branham qui parle. Il dit, c'était écrit sur un vieux papier jauni. C'était une nuit, je sortais de Seattle et il y avait un homme debout. Il avait un livre sous son bras et il disait continuellement, frère Branham, vous êtes dans la mauvaise église. Et il a mis son livre dans mes mains. C'était le livre de Mormon. Je ne savais pas ce que c'était. C'est un de leurs prophètes, des saints des derniers jours, et il prophétisait. Et cela est sur un vieux papier jauni, et j'ai toujours le livre quelque part dans ma bibliothèque. Sur ce papier jauni, leur prophète disait, et cela a été écrit donc dans les années 1890, par l'autour, voilà la prophétie, dans les prophéties apportées par un mormon, voici, dans les derniers jours, l'Allemagne aura un isme appelé nazi. Et en ces jours-là, W-I-2-L-I-A-M, William Branham, sera appelé et mis à part en humilité pour le service auquel je l'ai appelé. Mon serviteur William Branham sera mis à part en tant qu'ancien, qu'il soit humble et prêt à l'obéissance, et la plus grande portion de l'esprit viendra sur eux pour conduire la voie. Laissez-les être au travail, puisque le Seigneur a entendu leur prière. Nous n'avons pas besoin d'être mormons. Je veux dire, nous n'avons pas besoin de signer sur leur registre. Cette prophétie donnée par un prophète mormon, près de 20 ans avant la naissance de William Branham, exhortait les mormons à laisser Branham et ceux qui croiraient en lui être au travail parce qu'ils étaient approuvés par Dieu. Et il répondait à leurs prières. Mes frères et sœurs, est-ce que vous voyez dans quelle famille nous sommes? Je me sens enfant de cette famille-là. Et respectueux de tous mes parents spirituels. Pensez-y. T.L. Osborne, qui m'a ordonné le 7 novembre 1979, tenait son ministère de puissance miracle de William Branham. Il le dit lui-même dans un livre qui s'appelle « Impact ». Il dit, avant d'avoir rencontré ce prophète, mon ministère était basé, c'était un ministère de petits pasteurs pentecôtistes basé sur l'émotion et sur le bruit. Mais il a compris et il a reçu du ministère de William Branham le ministère de puissance que le monde connaît aujourd'hui. Des milliers de personnes converties et de guérisons extraordinaires. Et ils étaient tellement unis, ces deux-là, que lors de l'enterrement de William Branham, c'était T.L. Osborne qui a prêché. Et Raphaël tenait son ministère de T.L. Osborne, par prophétie, devant une foule de plus de 2000 personnes, pas dans une caravane, dans un petit coin perdu, non, devant 2000 personnes. Il y a 2000 personnes qui peuvent témoigner de cela. Enfin, plusieurs sont morts maintenant, mais bon. Et je me suis converti grâce au ministère de Raphaël. Vous voyez la famille que nous sommes? Et la plupart d'entre vous êtes nés de nouveau au travers de mon ministère. D'autres ont été adoptés dans ce ministère-là. Et vous avez été guidés par le Saint-Esprit dans ce ministère. pendant déjà presque plus de 30 ans. Mes frères et sœurs, vous voyez quelle belle famille nous sommes, une famille céleste. Ces choses ne méritent-elles pas, de la part des enfants que nous sommes tous, infiniment de respect pour toute cette famille-là? Et certains viennent nous parler d'adultère spirituel ou de je ne sais pas quoi, parce que nous avons décidé de partir dans le sud-ouest et eux, ils ne veulent pas. Mes frères et sœurs, le 21 décembre 2014, j'ai été conduit à parler à cette communauté, ça fera un an demain. Et j'ai juste dit que Michou et moi, nous nous retirions. J'ai juste dit ça. Et que je cédais la place. C'est enregistré. Les choses devenaient ingérables. Voilà pourquoi nous avons pris cette décision après avoir prié. Nous n'avons pas mendié, disant, je vous en supplie, venez avec nous. Non, 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 non. Ceux qui ont reconnu leur famille m'ont suivi. Amen. Je vous en remercie, soyez bénis pour cela. Soyez comme des enfants, mais comportez-vous comme des adultes spirituels, jusqu'au retour de Jésus. Que Dieu soit béni, que le seul nom de Jésus-Christ soit béni et loué et glorifié dans vos vies. Mais rappelez-vous comment vous en êtes venus à le connaître. Et soyez remplis d'amour et de respect. Là, je ne vous mendie pas votre respect. Simplement, je vous dis, si vous ne respectez pas, c'est que vous n'êtes pas dans l'ordre. Seigneur Jésus, je te prie que ces paroles touchent le cœur de ceux qui doivent être touchés et que ces paroles éloignent de nous ceux qui doivent être éloignés. Merci Seigneur Jésus. Tu es vivant, mon Dieu, et je sais que tu fais les choses bien. Et je devais, en cette fin d'année, je devais à chacun de dire ces choses. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Accepte notre louange ce matin. Merci, mon Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu.